Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a 8 jours, à la messe du troisième dimanche de l'Avent, Saint Paul nous demandait de nous réjouir, car le Seigneur est proche. Cette nuit, c'est chose accomplie. L'ange a dit aux bergers qui gardaient leurs troupeaux tout près de la grotte de Bethléem, « Je vous annonce une grande joie pour vous et pour tout le peuple. » Un Sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur. À la messe de l'aurore, nous voyons les bergers obéir promptement à l'ange et courir à la grotte. Après avoir constaté la vérité des paroles de l'ange, ils s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Ah, que nous aurions aimé être avec eux pour entendre et voir! Sommes-nous pour autant défavorisés? Non, au contraire, nous bénéficions de l'enseignement de l'Église catholique qui, dans sa liturgie de Noël, nous donne un éclairage et un témoignage certain de cet événement historique prévu de toute éternité, répondant à 3 questions qu'elle doit susciter en tout homme de bonne volonté. Qui est cet enfant dont nous fêtons la naissance? Pourquoi? Et quelles sont les conséquences pour nous? Pour répondre à ces 3 questions, l'Église nous donne 3 témoins de choix. Isaïe, le roi des prophètes, qui vécut au 8e siècle avant Jésus-Christ, Saint Jean, l'apôtre bien-aimé du Seigneur, et Saint Paul, celui que le Seigneur a converti, qui a fait d'un persécuteur l'apôtre des nations, tous deux contemporains de Jésus. Alors, quel est cet enfant dont nous fêtons la naissance? La naissance d'un enfant dans une famille normalement constituée a toujours été source de joie, pour elle et pour son entourage. L'intensité et l'extension de cette joie dans l'espace et dans le temps est proportionnelle à la personnalité de celui qui naît et à l'impact que sa vie aura sur les hommes. On ne trouve dans toute l'humanité aucun homme dont la naissance, annoncée des milliers d'années à l'avance, ait suscité autant de joie. On ne trouve personne dont la venue au monde soit cause de joie 2000 ans après sa naissance. On ne trouve aucun homme dont la naissance ait été célébrée par tant de peuples au cours de l'histoire. À la messe de minuit, le prophète Isaïe nous éclaire sur la personnalité de ce petit enfant. Un petit enfant nous est né, un fils nous est donné. Sa puissance est sur son épaule. On lui donnera le nom admirable, conseiller, Dieu fort, Père du siècle futur, Prince de la paix. Faisons appel maintenant à un témoin qui a vécu pendant 3 ans dans l'intimité de cet enfant devenu adulte, jusqu'à sa mort sur la croix. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait parlé par les prophètes. Mais de nos jours, dit saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, il nous a parlé par son propre Fils. Saint Jean a entendu son enseignement. Il a vu ses miracles. Il nous dit dans l'Évangile de la messe du jour que cet enfant est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. C'est-à-dire que la personne du Verbe, le Fils unique de Dieu, s'est fait homme en prenant un corps et une âme comme les nôtres dans le sein très pur de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. Cet enfant est vrai Dieu et vrai homme. Il a la nature humaine et la nature divine dans la seule personne du Fils de Dieu. Saint Jean a pu constater qu'il était vrai homme. Il l'a vu manger, dormir, souffrir de la faim, de la fatigue. Il l'a vu enfin dans les souffrances de la passion et la terrible mort sur la croix. Mais il a pu voir par certains actes qu'il était aussi vrai Dieu. En effet, notre Seigneur a fait devant lui et les autres apôtres et les foules de Palestine de nombreux miracles par sa propre puissance, Je le veux, sois guéri. Lève-toi et marche. Lazare sort, etc. Il a pardonné les péchés, ce qui scandalisait les Juifs, ses ennemis, parce qu'ils savaient que seul Dieu peut pardonner les péchés. Saint Jean a vu sur le mont Tabor un échantillon de cette gloire divine que notre Seigneur possédait avant l'existence du monde. Il a constaté sa résurrection glorieuse, il a assisté à son ascension. C'est pourquoi il résume tout cela dans ses paroles de l'évangile de la messe du jour. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Un rayon de cette gloire, de cette grâce, devait être visible dans ce petit enfant de la crèche. Le texte de l'Évangile nous dit en effet « Les bergers trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant couché dans une crèche. En le voyant, ils reconnurent la vérité de ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Or, que leur avait dit l'ange ? Un sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur. » À n'en pas douter, la grâce de cet enfant dissipa tous les doutes qui auraient pu naître en eux s'ils avaient vu un enfant quelconque. C'est pourquoi ils crurent, adorèrent et repartirent pleins de joie, glorifiant et louant Dieu. Cet enfant qu'ils avaient vu, c'était vraiment le Christ, le Seigneur. Répondons maintenant à la deuxième question. Pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait homme ? Le prophète Isaïe, dans la messe de minuit, nous décrit l'état lamentable du monde. Le monde est couvert de ténèbres. La venue du Fils de Dieu est une lumière qui vient éclairer les hommes qui marchaient dans les ténèbres et vivaient à l'ombre de la mort. Qu'est-ce que cela veut dire ? Après la chute originelle, l'état de l'humanité était déplorable. Les hommes avaient perdu l'état de grâce avec toutes ses conséquences. Ils se guidaient par leur propre lumière et furent bien sûr trompés grossièrement par Satan, l'ange des ténèbres, qui détourna à son profit le culte rudimentaire qu'il rendait à Dieu. Ce qui fera dire à saint Paul que tous les dieux des nations sont des démons. Tous les peuples vivaient dans la crainte, et pour se rendre favorable à la divinité, c'est-à-dire les démons cachés sous les idoles, ils eurent recours, plus ou moins selon les peuples, mais tous, aux sacrifices humains. Les mœurs étaient souvent dépravées, et les rapports entre les hommes et les peuples étaient impitoyables. Seul le petit peuple hébreu gardait pure l'espérance d'un sauveur. Ce sauveur, il nous appartient, il est pour nous. Un petit enfant nous est né, dit Isaïe, un fils nous est donné. La mission essentielle du sauveur, le motif déterminant de sa venue par l'incarnation, est de sauver les hommes, de les arracher au péché, de leur rendre la vie de la grâce qu'ils ont perdue et de les ramener à Dieu pour les faire participer à l'éternelle béatitude. Comment va-t-il s'y prendre, ce Sauveur ? Sa puissance est sur son épaule, dit le prophète Isaïe, voyant à l'avance le Sauveur portant sa croix, sur laquelle il va s'offrir en sacrifice. Saint Paul, dans la messe de minuit, dit que notre Sauveur Jésus-Christ est immolé pour nous afin de nous délivrer de toute iniquité. Et dans l'Épître à Tite, il précise que c'est par pure miséricorde qu'il nous sauve. Et il nous donne la vie surnaturelle par le baptême, nous faisant héritier de la vie éternelle. Cette venue du Sauveur concerne tout homme. Soit on l'accepte, soit on la rejette. À celui qui le reçoit, qui croit en son nom, dit saint Jean dans l'évangile du jour, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Christ, le Seigneur, s'est en quelque sorte anéanti en se faisant petit enfant, afin de ne pas nous effrayer par sa gloire. Rappelons-nous que les hommes ne peuvent supporter la gloire de Dieu sans un secours spécial. Dans l'Ancien Testament, les Hébreux avaient demandé à Moïse de voiler son visage lorsqu'il leur parlait après être descendu du mont Sinaï, tellement la gloire de Dieu rejaillissait sur son visage. Dans le Nouveau Testament, sous le mont Tabor, les trois apôtres qui accompagnent notre Seigneur se prosternent la face contre terre, saisis d'une grande frayeur en entendant la voix divine sortie de la nuée lumineuse. Par son humanité, Jésus se fait humble, petit, afin de ne pas nous effrayer. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Le plus coupable d'entre les hommes, le plus perverti, n'a pas à craindre. Il peut s'approcher de cet enfant. Il est né pour lui. Il lui est donné. Il suffit qu'il l'accepte comme son sauveur. Ce sauveur qui nous est né est incontournable. Il n'y a pas de troisième voie. Une espèce d'humanisme naturaliste ou un christianisme tiède qui chercherait le bonheur de l'homme sur cette terre en se guidant aux lumières de la raison ou aux lumières des philosophes du XVIIIe siècle et de leurs disciples. Il n'y a qu'une seule vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, le Verbe fait chair, le Christ Seigneur. Les autres lumières, les lumières, ne sont que des lanternes qui trompent les hommes, car elles viennent de ce prince, du prince des ténèbres, et conduisent à la mort. C'est pour cela que de nos jours, l'enfant de la crèche est combattu, de peur que les hommes ne voient clair en recevant cette vraie lumière. Alors, quelles en sont les conséquences pratiques pour nous ? Jésus, notre Sauveur, est venu à la crèche dans l'humilité, la pauvreté, naissance pauvre mais pleine de charme, de fraîcheur, de tendresse. Il ne faut pas en rester là. Jésus est venu ainsi pour accomplir sa mission de Rédempteur, qui devait culminer par ce qu'il appelait son heure, c'est-à-dire la passion et le sacrifice de la croix. Il l'a accompli à la perfection. Il a fondé son Église, il est remonté au ciel après sa résurrection, et il reviendra pour le jugement universel de tous les hommes à la fin du monde. Ce Sauveur qui nous a été donné à Noël pour nous conduire au ciel, il faut le recevoir, non pas à moitié, non pas en partie, selon nos caprices et nos compromissions avec l'esprit du monde, mais totalement, jusqu'au calvaire. Avant de remonter au ciel, il a ordonné à ses apôtres d'aller enseigner toutes les nations, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur apprendre à observer tout ce qu'il leur a commandé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La voie du salut est claire. Quant à nous, nous sommes déjà baptisés, nous avons la foi, c'est très bien. Mais il faut encore plus. Il faut mettre en pratique dans notre vie quotidienne tout ce que notre Seigneur nous a commandé. C'est-à-dire, nous devons non seulement pratiquer les bonnes œuvres qui sont résumées dans les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, mais aussi nous préserver de tout ce qui pourrait nous conduire à faire des mauvaises œuvres, tout ce qui peut nous conduire au péché. Cela demande le renoncement radical au péché, non seulement au péché mortel, mais au péché véniel délibéré, et à tout ce qui y conduit. Donc il faut nous détacher des biens de ce monde, nous détacher de nous-mêmes, pour nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ et ne suivre que lui seul. Avant de quitter ses apôtres le jour de l'ascension, notre Seigneur a ajouté ces dernières paroles. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Qu'est-ce que cela signifie ? Jésus, notre Sauveur, est présent dans la Sainte Eucharistie et il le sera jusqu'à la fin du monde. C'est le même Seigneur Jésus-Christ qu'à la grotte de Bethléem, qu'à Nazareth, mais sous une autre forme de vie. Mais il est le Christ Seigneur. Il en a la puissance. Il est présent parmi nous pour être notre nourriture, c'est-à-dire développer la vie surnaturelle qu'il nous a donnée au baptême, mais aussi pour que nous venions lui parler, lui confier nos soucis, écouter ses enseignements, suivre ses conseils. Alors prenons la résolution pendant ce temps de Noël de le visiter plus souvent au tabernacle. Il y est encore plus caché, plus voilé qu'à la crèche. Nos sens n'y ont aucune part. Mais c'est pour perfectionner notre foi et nous guérir de toute sentimentalité. Alors demandons-lui avec les collectes des messes de ce jour que sa naissance nous délivre de l'esclavage du péché et qu'après avoir connu les mystères de la lumière du Christ, nous puissions jouir un jour des joies du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.